France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1998, à l'Opéra Garnier, s'exposaient les féeries d'opéra de l'époque baroque. Les féeries d'un temps du théâtre avant l'électricité. Sophie Barouillet proposait une visite de cette exposition, guidée par son commissaire, Jérôme Delagorce, grand spécialiste des arts du spectacle en France au XVIIe et XVIIIe siècle. Au son des musiques de Rameau ou de Lully, nous déambulons avec lui au milieu des décors et des costumes dont les grands maîtres étaient alors Jean Bérin, Henri de Jissé ou Claude Gillot.
Musique à voir, Sophie Barouillet.
Bonjour à tous. Féerie d'opéra est le titre d'une exposition présentée actuellement à l'Opéra Garnier à Paris jusqu'au 26 avril prochain, chaque jour de 10h à 17h, même le dimanche. Alors cette exposition présente des maquettes de décors et des estampes de costumes d'opéra français du XVIIe et du XVIIIe siècle qui appartiennent à la collection du château de Chambord. Je vous propose aujourd'hui de nous promener dans cette exposition en compagnie de Jérôme Delagorce, qui en est le commissaire. Jérôme Delagorce qui a consacré plusieurs ouvrages et articles précisément aux décors et aux décorateurs des opéras français du XVIIe et du XVIIIe siècle et qui est aussi bien entendu l'auteur du très joli catalogue de cette exposition « Féerie d'opéra ».
Thank you.
Jérôme de la Gorce, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, le décorateur d'opéra et celui qui fait les costumes est extrêmement important. Alors on va peut-être parler de quelques grands noms. Le premier, c'est Torelli, un Italien. Il est venu invité par Mazarin. Quelle était la tradition en Italie qu'il a importée en France, en fait ?
Mais il a surtout introduit de nouvelles techniques théâtrales qui étaient inconnues jusqu'à présent en France. Ces techniques résidaient essentiellement dans de nouvelles machines pour des apparitions, mais aussi toute une machinerie susceptible de renouveler les décors, de permettre des changements à vue. Il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait pas d'entracte. Une représentation d'opéra durait de 2 à 3 heures. La toile se levait au début du spectacle et ne retombait qu'à la fin. Il y avait d'habitude pour un opéra français entre 4 et 6 décors différents et que les changements de décors avaient lieu à vue, c'est-à-dire que les châssis latéraux se renouvelaient instantanément au coup de sifflet. Il y avait un machiniste qui sifflait dans les coulisses et les décors donc glissaient sur la scène, certains châssis allaient dans les coulisses et d'autres venaient les remplacer. Et c'est comme ça qu'avaient lieu les changements de décors à vue. Et c'est Torelli qui a mis en place ce nouveau système de changement de décors. Il l'aurait expérimenté à Venise, au Teatro Novissimo. On dit qu'il s'est inspiré pour cette machinerie d'éléments qu'il a trouvés dans les chantiers navals de Venise. On retrouve effectivement tout un système de poulies, de cabestans, de contrepoids. Donc il aurait mis au point ces nouvelles techniques pour changer les décors à vue et c'est lui qui a introduit ça en France. C'était vraiment nouveau et les Français ont été absolument émerveillés par ces changements de décors à vue. C'est des tableaux entiers qui se succédaient. Très vite, ces techniques qui étaient admirées par les Parisiens ont été adoptées pour des spectacles plus traditionnels, comme les ballets de cour. Il a donc exercé ses talents jusque vers 1660. Et à ce moment-là, les Vigarani sont arrivés, c'était d'autres Italiens. Il faut savoir que dans ce domaine, évidemment, les Italiens étaient les grands spécialistes des décors et des perspectives et des techniques théâtrales, des machines. Et il n'y a finalement que Bérin, qui est une grande figure, mais pas seulement pour le décor, pour aussi pour le costume et d'autres formes d'art décoratif. Il est évident qu'il n'y a que Bérin qui est une grande figure française dans ce domaine. Mais après Bérin, il y a eu très vite Servan-Denis. Et c'est Servan-Denis donc, qui a bouleversé, encore une fois, la conception trop symétrique des représentations des décors et qui a introduit la fameuse perspective Perangolo, c'est-à-dire la perspective oblique.
décorateur avait un rapport spécifique, je suppose, avec le compositeur. Comment se passaient les rapports entre compositeur et décorateur ?
Mais écoutez, ce qu'on oublie de dire, et cette question est très importante, c'est qu'on faisait preuve de beaucoup d'économie, c'est-à-dire qu'on réutilisait beaucoup les décors, on les conservait donc dans des magasins, aussi bien à la cour qu'à Paris, pour les spectacles de l'opéra. Et donc, quand on montait de nouveaux opéras, évidemment, on pouvait entreprendre des dépenses pour faire de nouveaux décors, mais il fallait réutiliser en partie ce qui était dans les magasins. D'où l'obligation pour l'auteur du livret, avant, évidemment, de parler du compositeur, de se servir donc des décors existants, enfin de situer plutôt ces scènes dans des décors qui étaient conservés, et ce qui fait qu'on retrouve toujours un peu les mêmes types de décors et qui dictent évidemment, qui conduisent au même type de scènes dans ces opéras français. Et il y avait souvent une alternance de scènes pastorales, de scènes héroïques, de scènes mythologiques et merveilleuses, une scène infernale. Et en fait, tout ça correspondait aussi à un souci d'économie. Il faut savoir quand même, on faisait appel à des peintres, quelquefois, même souvent, de l'Académie de peinture, pour peindre les décors sur des toiles. Au début, au XVIIe siècle, les dessinateurs fournissaient des dessins et confiaient leurs dessins à des peintres donc plus ou moins réputés, comme Jacques Rousseau, par exemple, qui était un peintre paysagiste qui a travaillé avec Bérin. À l'époque de Vigarani, il y a eu Charles Erard, qui était quand même un très grand peintre. Au XVIIIe siècle, il y a eu quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que ceux qui dessinaient, qui créaient vraiment les décors, réalisaient quelquefois eux-mêmes les décors. C'est le cas de Servan-Denis. On sait que Servan-Denis a peint lui-même certains décors pour l'opéra. Et François Boucher aussi a peigné les décors. Il ne dédaignait pas s'adonner à cette tâche.
Au lieu de s'en plaindre, l'amour.
présent, nous allons visiter donc l'exposition Féerie d'Opéra, qui est présentée, je vous le rappelle, à l'Opéra Garnier jusqu'au 26 avril prochain, chaque jour, même le dimanche, de 10h à 17h. Alors Jérôme Delagorce, vous êtes le commissaire de cette exposition. Pourquoi ce titre Féerie d'Opéra?
Je pense que ces objets exceptionnels, que sont les maquettes conservées au château de Chambord, nous replongent tout à fait dans l'atmosphère féerique des spectacles d'opéra à l'époque baroque en France et même en Europe. Elle restitue en effet exactement ce, je pense, enfin avec pas mal de précision, ce que pouvait voir le public à l'époque, c'est-à-dire des décors qui étaient peints sur toile avec des rouleaux d'or et d'argent pour accrocher la lumière. Il faut savoir que les bouleversements qu'ont apporté l'électricité dans les mises en scène d'opéra au début du siècle, ces bouleversements ont complètement changé notre optique de la scène, et les scènes au XVIIe et XVIIIe siècle étaient éclairées grâce à des chandelles ou à des bougies, et évidemment pour accrocher les lumières on utilisait beaucoup l'or, l'argent, les paillettes, et là il y a des maquettes qui sont embossées de paillettes d'or et d'argent, des morceaux d'acier, de la verroterie, enfin tout était bon pour capter la lumière. J'ai réparti les maquettes conservées au château de Chambord selon des thèmes qui étaient les thèmes les plus fréquents dans l'opéra français du XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a une thématique qui est un peu générale, qui traite de la nature et de l'architecture. C'est-à-dire que la plupart des décors de l'époque étaient soit des palais, soit des jardins. Je crois que les compositions symétriques que dictait la machinerie de l'époque favorisaient donc la représentation de palais avec des nobles ordonnances de colonnades, et aussi les jardins, car les jardins au XVIIe et au XVIIIe siècle, enfin en tout cas au XVIIe siècle, étaient souvent bien ordonnés avec des allées bien rectilignes.
On va peut-être s'approcher d'une première maquette.
Oui. Alors cette maquette représente un jardin pour Les Surprises de l'amour, qui est un opéra de Rameau, qui a été créé à Versailles et qui a été repris à Paris. Et là, je pense que cette maquette, comme les autres, ont été créés pour les spectacles qui ont été donnés à Paris dans la salle du Palais Royal avant l'incendie de 1763 qui a ravagé ce lieu de spectacle où Lully avait installé sa troupe après la mort de Molière. Et donc nous avons un jardin assez étonnant avec des treillages dorés, ce qui correspond parfaitement à la description fournie par le livret du spectacle. Et nous remarquons, pour la toile de fond, car il s'agit de maquettes qui restituent la profondeur des décors, une estampe d'Israël Sylvestre qui reproduit une vue des jardins de Versailles. Alors ces vues qui étaient connues du public ne sont pas fortuites, en fait. Elle répondait soit au désir de la part du décorateur de rendre hommage au public, c'est-à-dire de lui rappeler où avait lieu la représentation, soit, et c'est le cas pour cette maquette, il s'agissait de rappeler le lieu de création du spectacle. Les Surprises de l'amour ayant été créées à Versailles, donc pour le public parisien, on lui montrait sur la toile de fond une vue de Versailles. C'est un clin d'œil adressé au public.
Les Surprises de l'amour de Jean-Philippe Rameau.
Son plan.
Là, Jérôme Delagorce, on entre dans une deuxième salle.
Donc après une partie consacrée à la nature et à l'architecture, là on entre vraiment dans la thématique des livrets d'opéra des XVIIe et XVIIIe siècles, et cette salle est consacrée aux scènes héroïques, sacrées et magiques.
Alors on va voir les scènes héroïques. Qu'est-ce qu'on appelle les scènes héroïques ?
Les scènes qui exaltent les vertus militaires, les vertus évidemment des héros, des princes comme Thésée, mais on en trouve évidemment dans beaucoup de scènes d'opéra, notamment dans Médée de Charpentier. Et là, nous avons eu la chance d'avoir le prêt du dessin original pour le décor du premier acte de Médée de Charpentier, qui a été représenté en 1693 à Paris. Il s'agit d'un dessin magnifique de Bérin qui représente donc une place publique ornée d'un arc de triomphe, de statues et de palmes sur des piédestaux, si je réponds bien aux descriptions fournies par le livret.
Quelles sont les caractéristiques de ce type de décor ? On retrouve les données de l'architecture de l'époque. Il n'y a pas de transposition dans l'époque du livret qui serait l'Antiquité ou
on a un arc de triomphe qui rappelle l'arc de Septime Sévère,
oui,
qui est à Rome.
Oui.
Mais évidemment, il est arrangé, il est accommodé au goût de l'époque, c'est-à-dire qu'il est moins élevé, et Bérin s'est amusé à le surmonter d'une balustrade qu'on trouvera plutôt pour un édifice du XVIIe siècle.
Médée de Charpentier, le tout début de cet opéra. Ici, Jérôme Delagorce, nous avons des représentations de costumes de magiciens.
les magiciens, évidemment, sont souvent armés de baguettes pour accomplir leurs maléfices. Très souvent, contrairement aux prêtres ou aux prêtresses qui intercèdent pour des actions bénéfiques, les magiciens, au contraire, interviennent pour faire intervenir des forces du mal, des forces surnaturelles, des démons, des monstres. Et ils sont souvent habillés avec des éléments décoratifs qui évoquent la nuit, comme les chauves-souris. Là, nous avons plusieurs costumes avec le motif de la chauve-souris. Il y a également des formes découpées qui rappellent les ailes des chauves-souris, la chauve-souris étant l'animal de la nuit. Et on retrouve aussi des signes kabbalistiques, donc mystérieux, qui évoquent évidemment les formules qu'ils peuvent prononcer pour accomplir leur maléfice.
On va passer à une autre salle. Là, ce sont la salle où vous avez réuni les maquettes et les originaux de ce que vous avez appelé les divinités de la Terre et de l'onde.
Voilà, c'est la troisième partie de l'exposition. Là, on entre petit à petit dans l'univers merveilleux de l'opéra avec tout un monde peuplé de divinités qui se rattache quand même à un univers familier puisqu'il s'agit de la Terre. Donc, il y a des divinités de la Terre comme Bacchus, les faunes, les dryades. Et puis, il y a aussi les divinités de l'onde qui sont très importantes, Neptune, Tétis. Il y a aussi des fleuves, il y a aussi des naïades. Et tous ces personnages, donc, adoptent pour leur costume tout un vocabulaire qui évoque le monde dont ils sont issus.
Alors, on va peut-être regarder quelques-uns de ces costumes. Ça, c'est une estampe d'une dryade. Vous pourriez peut-être nous la décrire, Jérôme de la Gorce.
Oui, c'est une estampe de Martin. Martin était un merveilleux dessinateur de costumes qui a travaillé pour l'opéra au milieu du XVIIIe siècle. Et la plupart de ses dessins ne sont connus qu'à travers des estampes qu'il a publié lui-même d'ailleurs peu de temps après son départ de l'opéra et qui montre un extrême raffinement dans le costume. Alors là, il s'agit d'une dryade. Les faunes et les dryades reprenaient comme ornementation pour leur costume évidemment des motifs végétaux, des feuilles de vigne. Les faunes, évidemment, sont les compagnons de Bacchus, donc ils fréquentent les vignes. Et on retrouve également d'autres motifs. Ici, nous avons, alors mais traité d'une manière très élégante, le motif de la peau de panthère que nous voyons ici sur la large robe à panier de la dryade. On sent toujours, à travers les costumes de scène, la mode du temps, c'est-à-dire le costume civil que portaient les spectateurs, en fait, dans la vie quotidienne. Mais quand même, il y a toute cette ornementation qui était chargée de caractériser les personnages. On parle au XVIIe siècle de la règle de la convenance des habits, c'est-à-dire que les habits devaient être convenables au rôle donc attribué aux différents interprètes.
Le chant d'une naïade, cette fois, dans l'Armide de Lully. De la Gorce, là nous sommes dans la salle intitulée « Au ciel et aux enfers ».
Oui, « Du ciel aux enfers ». Je parodie un peu Perrault qui, quand il parlait de l'opéra, il disait qu'on passait du ciel aux enfers, donc je me suis amusé à reprendre ça. Là nous sommes absolument dans un monde surnaturel, hein, puisqu'il s'agit d'évoquer les scènes qui se passent aux enfers, donc sous la terre normalement, et d'autre part des scènes qui se passent au-dessus de la terre, dans le ciel, au milieu des nuages. Alors ces scènes, évidemment, ont leur vocabulaire ornemental aussi pour les caractériser. Pour les enfers, il y a évidemment d'abord des couleurs, le rouge et le noir. Le rouge étant évoquant les flammes qui scintillent en permanence en enfer, et le noir étant évidemment l'obscurité de ce monde souterrain. On remarque avec ce costume de furie, pour les noces de Pélée de Tétis, qui est un spectacle qui a été donné en 1654 à Paris, qu'il y a d'autres motifs importants avec ce costume de furie. Il y a évidemment les serpents et les flambeaux. Tout ça évidemment évoque l'enfer et cet univers terrifiant qui était gouverné par Pluton.
Il faut imaginer que les spectateurs n'avaient pas de programme, je suppose. Ils connaissaient le mythe auquel se référait le...
Alors, ils n'avaient pas de programme, mais ils achetaient les livrets. Ils achetaient les livrets à la porte du théâtre et suivaient l'action dramatique avec une bougie, ce qui montre que la salle devait être dans une certaine pénombre pendant les spectacles. Et donc, pendant les représentations, ils pouvaient suivre, ils étaient très attachés à la compréhension du spectacle, et donc ils pouvaient suivre sur le livret l'action dramatique qui se déroulait sur scène. Et il faut savoir aussi qu'à l'opéra, le public chantait avec les choristes pendant les spectacles. On en a la preuve par plusieurs relations laissées par des contemporains. Il y avait des chœurs en rondeau, et quand le chœur reprenait le refrain, le public, avec le livret, donc, pouvait chanter avec les choristes pendant les représentations. Le fameux chœur Clair-Flambeau du Monde dans les Indes Galantes de Rameau est un chœur en rondeau, et il faut imaginer qu'à chaque fois qu'on reprenait Clair-Flambeau, c'est-à-dire le refrain de ce chœur, le public chantait avec les choristes pendant les représentations.
Rassemble tes bienfaits, clair flambeau du monde, l'air, la terre et l'eau te doivent leurs apprêts.
Clair flambeau du monde, l'air, la terre et l'eau, rassemble tes bienfaits, clair flambeau du monde, l'air, la terre.
Thank you.
Lagorce, il y a une chose très importante au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce sont les machineries. Les apparitions de chars venus des cintres, des chars avec des divinités. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été importé d'Italie.
Oui, c'est un merveilleux qui venait directement d'Italie. On avait beaucoup apprécié les machines de Torelli, les machines volantes de Torelli, qui descendaient donc du cintre, qui étaient capables de s'ouvrir et de présenter, on le sait, des mouvements indépendants. Et quelquefois, et on le sait grâce aux dessins qui sont annotés par Bérin, des éclairages extrêmement raffinés. Alors il y avait une machinerie très importante pour cet univers céleste. Dans l'univers infernal, la machinerie jouait aussi un rôle, parce qu'il y avait des dragons, des monstres dont les carcasses étaient faites d'osier et qui étaient capables d'être articulés sur la scène. Il y a ici un très beau dessin qui montre comment un monstre pouvait être articulé sur la scène. Mais dans toutes les scènes célestes, évidemment, il y avait beaucoup de machines qui descendaient, alors cette fois-ci du haut de la scène, du cintre. Il pouvait y avoir donc des vols, comme ici, c'est-à-dire que la divinité descendait d'un côté de la scène pour rejoindre un autre côté de la scène, donc c'était ce qu'on appelle un vol transversal, alors qu'évidemment il y avait aussi des apparitions frontales, des chars, comme nous avons ici avec la machine de Minerve qui descend avec deux petits génies qui étaient interprétés par des enfants. Il fallait qu'il fasse attention de ne pas tomber.
Oui, on imagine.
Il pouvait
quand
y avoir des
croquis.
Accidents. Et puis, quelquefois, alors, il y avait des machines beaucoup plus importantes, des gloires, où là, on pouvait accueillir quelquefois au moins une quinzaine, en tout cas à l'opéra, une quinzaine d'interprètes. On raconte même que dans les grands spectacles donnés à la cour, dans la salle des machines des Tuileries, au moment de Psyché ou de l'Ercole Amante, c'est-à-dire en 1662 ou en 1671, il pouvait y avoir jusqu'à 200 personnes dans une machine. Vous vous rendez compte ?
On a du mal à le croire.
On a du mal à le croire.
Alors, dans l'Ercole Amante de Cavalli, qui a été composé pour le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, on peut lire au début de l'acte 1, « Le décor représente des deux côtés un bocage, dans le fond un vaste paysage, les environs de la capitale de Léocalie. Un petit peu plus loin, Vénus, accompagnée des grâces, descend du ciel. Et puis encore, dans les nuages qui entouraient la machine de Vénus, Junon était dissimulée. Elle se découvre progressivement et on la voit assise sur un pan. Et puis encore, Junon se retire et des nuages qui entouraient sa machine, elle fait descendre les éclairs et les tempêtes.
Come si beffamore del poter mio, a me cui cielo il mondo farà contrasto una donzella, oddio. Come si beffamore del poter mio. Tanti mostri vide sangui e trofei di sua fortezza, scempio sarà di femminil fierezza e trafitto cadrà da un bandesio. Come si beffa amor del poter mio.
so già perché il cesso offrire ti deggia di Pluton l'orrida regia un di te più reo non ha. Pietà sacrilego tirando ne riempi il credulo tuo regno mentre ne delui tempi l'adorate cortine di grazia e di beltà non celan altro al fine ch'induli a buoni innevoli quai sono interesse perfidia orgoglio e sdegno. Così avvien per Ione che l'altar del cor mio sparga d'alti sospir malgrati funi e che vittima infausta io mi consumo. Oh, Cupido, io non so già perché il cesso offrir ti deggia di Pluton l'orrida regia un di te più reo non ha.
Nous arrivons à la dernière partie de l'exposition. Il faut savoir que tous les sujets des livrets d'opéra ne sont pas tirés de la mythologie grecque et romaine, qu'il existe un certain nombre de spectacles dont les sujets trouvaient leur source d'inspiration dans des romans de chevalerie. Et pour restituer cette atmosphère de romans de chevalerie, là il s'agit d'une maquette pour Amadis. Amadis qui est un opéra de Lully, mais qui a été repris plusieurs fois au XVIIIe siècle. Et là, je pense qu'il s'agit d'une maquette pour une reprise d'Amadis en 1759. Pour donc restituer cet univers chevaleresque, eh bien là, le décorateur n'a pas hésité à recourir à l'art gothique, à l'ogive. Ce qui fait que nous avons ici, donc en plein milieu du XVIIIe siècle, un décor que l'on pourrait qualifier déjà de troubadour.
Alors c'est le début aussi peut-être d'une avancée de l'exotisme, et on va le voir avec un palais chinois.
Oui, alors c'est la plus belle maquette pour Les Paladins. Les Paladins étant un opéra de Jean-Philippe Rameau, qui a été créé à Paris en 1760 et qui n'a jamais été repris par la suite. Donc On est sûr que cette maquette a été faite pour la création de cet opéra. En plus, on connaît le répertoire de l'époque. Il y a quelques spectacles qui présentaient des décors chinois, mais aucun ne répond parfaitement à ce que montre cette maquette et à la description du livret des paladins. Donc on est sûr que ça a été fait pour les paladins de Rabaul.
Quelle image de la Chine cette maquette de palais chinois donne ?
Il faut savoir que quand même, depuis le début du XVIIe siècle, on connaissait la Chine. Il y a même des costumes de chinois dans les ballets. Ce ne sont pas des thèmes entièrement nouveaux au XVIIIe siècle. Néanmoins, on peut dire qu'au XVIIIe siècle, il y a eu un regain d'intérêt pour les chinoiseries. Il faut penser dans le domaine des arts décoratifs, l'importance de la chinoiserie. Et là, on retrouve toutes ces breloques, des petits vases,
beaucoup d'or,
des palmes. Alors évidemment, le goût rocaille se marie merveilleusement bien ici avec le goût chinois. Il y a des monstres encore, mais ce sont des dragons aux formes un peu stylisées.
Il y a pas mal de vases.
Enfin, le décor est extrêmement fouillé. C'est une des maquettes les plus raffinées conservées dans cet ensemble exceptionnel.
Alors, les paladins de Rameau n'ont jamais été remontés, il n'y a donc pas d'enregistrement de cette œuvre, mais il y a une forme d'exotisme un petit peu différente dans les Indes galantes de ce même Rameau avec l'entrée des Incas.
Brillant soleil, ta plus éclatante lumière, et tu réponds dans nos climats, ta plus éclatante lumière, ta plus éclatante lumière.
Au cours de cette émission, vous avez entendu des extraits d'Hippolyte et Aricie de Jean-Philippe Rameau, Phaéton de Lully, L'Europe galante de Campra, Les surprises de l'amour de Jean-Philippe Rameau à nouveau, Médée de Charpentier, Armide de Lully, Les Indes galantes et Ercole Amante de Cavalli. Musique à voir, l'exposition de décors d'opéra du XVIIIe siècle, Féerie d'opéra, a été diffusée pour la première fois le 2 avril 1998.